VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Morgane Guiriec au micro. Bonjour l'Afrique. Au sommaire, en ce mercredi 21 janvier, le discours sur l'état de l'Union. Le président américain s'est exprimé devant les deux chambres réunies du Congrès hier soir à Washington.
Tonight, after a breakthrough year for America, our economy is growing and creating jobs at the fastest pace since 1999.
Nous y consacrerons une page spéciale. Frappe américaine dans le nord du Mali à Tambancourt. La MINUSMA dit avoir répondu à des tirs sur ses casques bleus. En RDC, l'opposition fait état de nombreuses arrestations après les manifestations contre la modification de la loi électorale. Nigeria, Boko Haram revendique l'attaque de Baga. Mais avant, le journal. Le président Barack Obama a prononcé hier soir devant les deux chambres réunies du Congrès son discours sur l'état de l'Union. Pour résumer ce discours, j'ai avec moi Idrissa Seydoudia. Bonjour Idrissa.
Bonjour Morgane.
Alors je crois que l'un des grands titres de ce discours, c'est l'appel du président au Congrès pour l'adoption d'une résolution sur le recours à la force contre le groupe État islamique pour montrer au monde que l'Amérique est unie dans cette mission.
En Irak et en Syrie, le leadership américain, y compris sa puissance militaire, est en train de stopper la progression de l'État islamique, a assuré M. Obama.
Instead of getting dragged into another ground war in the Middle East, we are leading a broad coalition.
Pour le président Obama, plutôt que de se laisser entraîner dans une nouvelle guerre au sol au Moyen-Orient, les États-Unis dirigent une large coalition qui inclut des nations arabes pour affaiblir et en fin de compte détruire ce groupe terroriste. Ils appuient également une opposition modérée en Syrie qui peut aider dans cet effort et ils assistent tous les peuples qui tiennent tête à cette idéologie en faillite de l'extrémisme violent. M. Obama a souligné que cela prendra du temps et qu'il faudra se concentrer sur cet effort mais que nous réussirons.
Le président Obama a souligné également la solidarité des États-Unis avec les peuples qui, à travers le monde, sont ciblés par les terroristes, d'une école au Pakistan aux rues de Paris.
We will continue to hunt down terrorists and dismantle their networks.
Le président a assuré que les États-Unis continueront de pourchasser les terroristes et de démanteler leurs réseaux et se réserve le droit d'agir unilatéralement comme ils l'ont fait sans relâche depuis qu'il est arrivé au pouvoir pour éliminer les terroristes qui posent une menace directe à l'Amérique et à ses alliés. M. Obama a de nouveau expliqué sa stratégie à l'étranger. Plutôt que d'envoyer de grands nombres de troupes sur le terrain, il a choisi le partenariat avec les nations concernées d'Asie du Sud à l'Afrique du Nord pour empêcher les terroristes qui menacent l'Amérique d'avoir des sanctuaires.
L'Afrique du Nord, mais aussi de l'Ouest, où sévit l'épidémie d'Ebola, a été mentionnée dans le discours de M. Obama sur l'état de l'Union.
Le président a noté que des troupes scientifiques, médecins, infirmiers et agents de santé américains aident à enrayer l'épidémie, sauvant un grand nombre de vies et arrêtant la propagation de la maladie.
I could not be prouder of them. And I thank this Congress for your bipartisan support of their efforts.
Le président a exprimé toute sa fierté face aux actions de ses concitoyens sur le terrain. Il a remercié le Congrès pour son soutien bipartisan à leurs efforts. Il a averti qu'il reste encore beaucoup à faire, ajoutant que le monde a besoin de tirer les leçons de cette crise pour construire des systèmes internationaux plus efficaces pour empêcher la propagation de futures épidémies, investir dans le développement intelligent et éradiquer la pauvreté extrême.
Le président est revenu sur la reprise des relations avec Cuba, de la fermeture éventuelle de la prison de Guantanamo. Il a averti, concernant le nucléaire iranien, qu'il userait de son veto pour bloquer toute nouvelle sanction du Congrès afin de pouvoir donner encore une chance aux négociations actuelles avec Téhéran.
On peut aussi dire, Morgane, que le président Obama, reconnaissant l'actualité récente, a déploré l'antisémitisme qui a refait surface dans certaines parties du monde, et il a simultanément rejeté les stéréotypes offensants pour les musulmans, dont la vaste majorité appuie notre engagement en faveur de la paix.
Bien entendu, la politique intérieure, compte tenu de l'échéance présidentielle de 2016 pour les démocrates, a été au centre du discours de M. Obama sur l'état de l'Union.
Comme prévu, il a mis l'accent sur ses priorités pour la classe moyenne pendant les deux dernières années de sa présidence, notant les progrès réalisés depuis son arrivée à la Maison-Blanche en 2009. Monsieur Obama a souligné les bons indicateurs économiques qui prévalent de nos jours et ce qui a été accompli sur le plan international depuis le début du 21e siècle.
Merci Idrissa Seydoudia et nous reviendrons sur les réactions et analyses dans la seconde partie de ce programme.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, frappe aérienne dans le nord du Mali, à Tabankort. La MINUSMA, la force onusienne sur place, dit avoir répondu à des tirs directs, à l'arme lourde, sur ses casques bleus. Un véhicule des rebelles aurait ainsi été détruit. Côté rebelles, la coordination des mouvements de l'Azawad, citée par l'AFP, affirme avoir été la cible de bombardement de l'aviation de la MINUSMA. Les deux parties font état de morts et de blessés. Plus sur ces combats en seconde partie des mission. Boko Haram revendique l'attaque de la ville de Baga et des localités avoisinantes début janvier. Nous avons tué le peuple de Baga, comme notre Dieu nous a demandé de le faire dans son livre, déclare Aboubakar Shekaou, le chef de l'organisation djihadiste, dans une vidéo publiée sur YouTube. L'AFP souligne que la date et le lieu de l'enregistrement demeurent inconnus. Ce raid de Boko Haram, rappelons-le, a fait des centaines de morts. Il s'agit de l'attaque la plus grave en 6 ans d'insurrection, estime Amnesty International. À noter qu'une réunion sur la lutte contre Boko Haram s'est ouverte hier au Niger. Ne manquez pas notre analyse en seconde partie d'émission. Et au Niger toujours, une dizaine de radios et télévisions privées ont suspendu leurs émissions hier soir. D'après l'AFP, ces médias dénonçaient les violences policières à l'égard des journalistes lors des émeutes provoquées par la publication d'une caricature de Mahomet par Charlie Hebdo. « Je suis la liberté de la presse », pouvait-on lire sur les écrans de télévision. Et voilà, on passe au journal de la Cannes avec Nicolas Pineau.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la Cannes sur VOA Afrique, la Côte d'Ivoire et le Cameroun accrochés dans le groupe D. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont eu chaud hier soir à Malabo. Les Ivoiriens sont passés par toutes les émotions face à une excellente équipe de Guinée. Contre toute attente, c'est le Sili National qui ouvre le score à la 36e minute par Mohamed Yattara. Et le score restera inchangé jusqu'à la mi-temps. Et puis le fait du match, le carton rouge de Gervinho, l'attaquant ivoirien auteur d'un vilain geste dans la surface de réparation contre un défenseur guinéen. L'arbitre n'a pas hésité une seconde. Les éléphants, alors réduits à 10, vont pourtant offrir un visage totalement différent. Et c'est Seydou Doumbia qui égalise. Un partout, le score ne change pas et les Ivoiriens ne sont donc pas rassurés pour leur début dans la compétition. En revanche, la prestation guinéenne a dû faire plaisir à tous les supporters restés au pays. À la fin de la rencontre, le capitaine ivoirien Yaya Touré a déclaré « On savait que la CAN n'était pas un tournoi facile. On a fait preuve de maladresse en première période, mais on a eu une bonne réponse. On a encore une chance de se qualifier. » Michel Dussuyer, le sélectionneur de la Guinée, affirme lui que son équipe était un peu frustrée. On a manqué d'expérience dans la gestion de notre avance. Ce bon résultat du Sili National a été endeuillé. Une grenade a explosé dans une buvette dans un quartier populaire de Conakry lors de l'ouverture du score par la Guinée. La gendarmerie guinéenne dénombre plusieurs morts et blessés. Ce matin, toutes les équipes du groupe D sont à égalité avec un point, et ce en raison de l'autre match nul hier soir entre le Mali et le Cameroun, un but partout. Ce match fut assez équilibré avec une domination malienne pendant plus d'une heure. Les Aigles réussissent à concrétiser cette pression en seconde période. Sambouya Tabaré, du droit, inscrit son 3e but en 4e sélection. Les Maliens pensaient avoir fait le plus dur, mais c'est sans compter sans Oyongo. Le Camerounais contrôle magnifiquement du droit, puis bas du gauche, le portier malien Diakité. A noter que les Maliens se sont vus refuser un but dans les arrêts de jeu, car Yata Barré était hors jeu. Score final donc entre les deux équipes, un but partout. Non, ne me teste pas, non, j'ai la balle, ne teste pas. En bref, la Fédération équato-guinéenne de football s'est plainte d'un complot arbitral. Après le but refusé à sa sélection, face au Congo, c'était samedi dernier en match d'ouverture. La Fegifoot a envoyé une lettre de protestation à la Confédération africaine pour se plaindre que l'arbitre gambien Bakary Papagassama n'ait pas validé en seconde période le but de l'attaquant et capitaine équato-guinéen Emilio Nsoué, signalé alors hors-jeu. Les équato-guinéens affirment qu'il s'agit d'une action planifiée pour rendre difficile la qualification du Nzalang pour les quarts de finale. Le Nzalang justement qui rencontrera le Burkina Faso aujourd'hui pour la deuxième journée du groupe A. Un match capital pour les vice-champions d'Afrique qui se sont inclinés lors du premier match face au Gabon. Reportage de Salif Kabore à Bata.
Le capitaine Charles Kabore mesure l'ampleur de la tâche.
Oui, notre avenir en dépend parce que ce match, on n'a pas droit à l'erreur. Même un match nul, c'est pas bon pour nous. Il faut tout faire pour gagner ce match, mais ne pas se mettre la pression inutilement.
La Guinée équatoriale, qui a cet avantage de jouer à domicile, aura certes le soutien du public du stadium de Bata et les supporters du Nzalang national espèrent bien une victoire face aux étalons.
Pour moi, je pense que Guinée peut gagner parce qu'on ne sait pas. Je veux que mon pays gagne.
Du côté du Burkina Faso, les supporters, eux, attendent que leur équipe se replace dans la course pour la qualification au prochain tour.
Le dernier match que moi j'ai vu le Burkina jouer dernièrement avec le Gabon, mais le Burkina Faso sont forts, ils jouent bien. De la façon dont moi j'ai vu Zalang jouer la dernière fois, je ne vois pas qu'il y aura un match entre Zalang et le Burkina. Moi je trouve que le Burkina serait fort plus que Zalang.
Bata, Salif Kabore, la voix de l'Amérique.
Le Gabon en tête du groupe A essaiera de conforter son avance face au Congo. C'est l'objet du coup de sifflet ce matin de Jules Valentin Ngoui.
Bonjour. La deuxième journée des matchs de groupe commence avec les rencontres de la poule A, où un autre derby de la CEMAC va enflammer la sous-région pour un des sommets attendus d'eux entre le Gabon et le Congo. Déjà, le premier derby en match d'ouverture a vu le petit pousset équato-guinéen contraindre au nul les poulains de l'emblématique entraîneur Claude Leroy. Le vieux sorcier blanc sait qu'il faut désormais tenter le tout pour le tout. Contre une équipe gabonaise que la première journée est une victoire face aux vice-champions d'Afrique en titre, mais dans les dispositions idéales. Les Gabonais affectionnent garder le ballon et attendent patiemment de trouver la faille en contre pour placer les stockades. Le Congo, qui se doit de gagner, est face à un dilemme tactique. Faut-il libérer les joueurs en leur laissant prendre le plaisir de jouer, ou alors faut-il privilégier l'aspect tactique et calculateur? L'enjeu risque de tuer le jeu, sauf si une des équipes venait à marquer tôt. À demain.
Merci Jules. Et demain, retour des équipes du groupe B, Tunisie-Zambie et surtout République démocratique du Congo face au Cap-Vert. Le point sur les léopards congolais avec Thierry Kamboundi sur place à Ebebeyin.
Travail essentiellement tactique pour les léopards de la République démocratique du Congo avant d'affronter les requins bleus du Cap-Vert ce jeudi 22 janvier. Le regroupement défensif et la transmission rapide du ballon constituent les principaux chantiers travaillés aux derniers entraînements de l'équipe nationale congolaise qui a pris au moins un but à chaque match depuis les éliminatoires de cette CAN. Cédric Mongongu est défenseur central de la RDC.
C'est pas que les quatre défenseurs qui défendent. C'est en bloc. Quand le bloc n'y est pas, c'est difficile pour nous. Contre la Zambie, on a un peu dormi, je sais pas, on est mal rentré dans la partie. Après, au fur du match, vous avez vu, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions, ils n'ont pas tiré au but. Après, là, à l'entraînement, on essaie de travailler toujours pour améliorer ça. Là, maintenant, ça va, on va essayer de pas prendre de but parce que ça nous handicape beaucoup.
Comment battre l'équipe nationale du Cap-Vert, qui est l'une des premières à s'être qualifiée pour cette CAN? Jean-Florent Ibenge Ikwange, sélectionneur de la RDC, répond.
Déjà avec un très bon bloc défensif, parce qu'ils ont des attaquants qui sont très rapides. Alors si on peut pas les prendre à la course, il faut couper justement la source de ravitaillement de ces joueurs-là. Ils ont deux milieux de terrain qui donnent des très bons ballons, donc il faut empêcher ces deux milieux de terrain-là de donner les ballons.
Depuis Ebebeyin, Thierry Kamboundi Kafouti de Top Congo FM pour VOA Afrique.
C'est tout pour ce journal de la CAN. Prochain point sur la compétition, ce soir, dans Le Monde Aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur notre site internet voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec, en votre compagnie, place au dossier du jour. Le président Barack Obama a prononcé hier soir, devant les deux chambres réunies du Congrès, son discours sur l'état de l'Union. Pour des réactions à l'aspect politique intérieur du discours sur l'état de l'Union, Henri Francisque a joint James Caesar, professeur de sciences politiques à l'Université de Virginie à Charlottesville. Sa première question: quelles sont les chances de succès des projets du président?
Peu de chances, vraiment, parce que ce n'est pas lui vraiment qui détient le pouvoir en ce qui concerne la législation. Donc, il peut parler bien, il peut donner des discours, mais en fin de compte, c'est le Congrès qui contrôle la législation. Donc, il a donné un bon discours, mais il ne contrôle pas l'agenda des États-Unis pour les dernières deux années de son mandat.
Dans ces conditions, pourquoi donner ce discours? Quel est son objectif?
Il présente la position de son parti politique, ce qui est important parce qu'il y aura un débat pendant les prochaines deux années pour les présidentielles. Et puis, il y aura peut-être deux, trois possibilités pour coopération entre les partis politiques. Mais je ne pense pas qu'il a l'intention d'avoir des compromis avec les républicains, sauf peut-être en deux cas. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour coopération entre les partis politiques.
Le professeur James Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville. Pour l'aspect politique étrangère, en général, Henri Francisque a contacté Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint chargé de l'Afrique.
Pour les affaires étrangères, il a une certaine confiance qu'il n'y a pas de grands dangers pour nous. Mais quand même, il a dit que nous devons continuer notre leadership dans le monde étranger.
Oui, il a parlé de leadership, mais il dit que ça doit être un leadership beaucoup plus nuancé, qui doit se baser sur les valeurs morales et surtout demander aux pays qui sont menacés de se défendre eux-mêmes.
Exactement, parce qu'il a dit que c'est la dernière année de notre intervention en Afghanistan et nous ne devons pas envoyer des soldats américains pour chaque problème à l'étranger. Le public américain n'aime pas ça, mais nous sommes là pour aider, pour faire des coalitions, pour utiliser nos avions, pour aider les soldats étrangers à être formés. Donc nous n'allons pas nous retirer, mais nous allons participer dans les coalitions.
Pour l'angle Afrique, Henri Francisque a joint Mamadou Diouf, professeur d'histoire à l'Université Columbia à New York.
Pour l'Afrique, les deux grandes questions, c'est la question de la sécurité au nord, dans la connexion Afrique du Nord et Sahara-Sahel, et la question de l'Ebola, il en a parlé. Ce sont les deux grandes questions qui, en fait, signalent la présence de l'Afrique sur la scène internationale. Mais ce qui est clair, c'est que le discours du président américain est un discours à usage domestique, mais dont l'aspect international est mis en place par ce qu'on pourrait appeler la réitération des positions qu'il a prises et qui semblent porter leurs fruits.
Qu'est-ce que ce message, ce discours sur l'état de l'Union, présage pour les deux dernières années de mandat du président?
Il a les mains libres et en meilleure position, parce que quand il devenait président, c'était dans un contexte de crise extraordinaire. Aujourd'hui, on voit très clairement, l'Amérique est en train de rebondir dans une phase d'expansion économique.
Mamadou Diouf, professeur d'histoire à l'Université Columbia de New York.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
En République démocratique du Congo, au moins 28 personnes ont été tuées lundi et mardi lors des manifestations hostiles au président Kabila. Le bilan vient des organisations des droits de l'homme. Eddy Isango a joint le président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, Maître Georges Kapiamba.
Si je prend seulement la situation de Kinshasa, nous avons pour le premier jour au moins authentifié 18 civils tués à balles réelles et 2 policiers, avec plusieurs blessés et beaucoup d'arrestations, dont un secrétaire général du parti politique de M. Jean-Claude Muyambo, qui a été enlevé hier, qui est détenu actuellement au cachot de la police à Kinshasa. Et pour la journée d'hui, nous avons au moins recoupé 10 morts, tous des civils à balles réelles, et plusieurs blessés et beaucoup de personnes arrêtées et détenues dans plusieurs cachots pour lesquels nous exigeons du gouvernement à ce que des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme, des membres, des familles, des personnes qui sont portées disparues puissent être autorisés à visiter tous les cachots de la police ainsi que de l'armée pour identifier les personnes qui ont été arrêtées.
Est-ce que vous avez vous-même vu les cadavres?
Nous avons vu des cadavres, nous avons énormément d'éléments, nous avons des photos que nos moniteurs ont prises sur terrain, nous-mêmes nous avons visité beaucoup de ces morts dans des morgues, et là je dois vous avouer que notre tâche n'était pas facile, comme ça a été aussi pour l'ensemble des journalistes, parce que le gouvernement avec la police ont organisé des choses de telle enseigne que tout accès aux morgues était très très difficile.
Quelle est présentement la situation à Kinshasa? Est-ce que la tension a baissé?
Depuis 19 heures, nous avons constaté que la tension a baissé, même si il reste toujours difficile de pronostiquer pour ce qui sera le lendemain, étant donné que nous avons toujours constaté la présence assez importante de policiers éparpillés par-ci par-là. Et les différents checkpoints de la police et de l'armée restent toujours visibles dans différents carrefours ou des points chauds. C'est une situation qui nous inquiète énormément. Voilà pourquoi nous n'avons pas cessé d'appeler le gouvernement, principalement le président de la République, à pouvoir rapidement prendre une initiative pour faire suspendre les débats sur cette loi qui est inopportune, qui divise fondamentalement aujourd'hui la population congolaise.
Maître Georges Kapiamba, joint par Eddy Sango.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Télé Mwangaza, à Lubumbashi, province du Katanga.
Dans le nord du Mali, de violents combats ont opposé des groupes armés dans la zone de Tabankor. D'un côté, la coordination réputée séparatiste et de l'autre, la plateforme qui est pour la conclusion d'un accord à Alger avec le gouvernement de Bamako. Idriss Fall a recueilli la réaction de Mohamed Ould Matali, membre de la plateforme.
Ce qui se passe autour de Tabankor, en réalité, est animé par la coordination qui veut détruire la plateforme qui a son siège à Tabankor. Et la plateforme est soucieuse de difficultés et des problèmes qui sont en train de traverser aujourd'hui les populations du Nord. C'est pourquoi nous sommes partants pour un accord. Or, la déclaration n'est pas pour. Et elle veut continuer à appuyer nos populations qui sont à Bombo, qui sont à Zoro, qui sont un peu partout. Nous, on n'est plus d'accord. Maintenant, ils viennent croyant qu'ils vont nous enlever de Tabankor. Ils ne sont pas prêts pour aller à un accord à Alger. Et c'est un sabotage pour que les accords ne tiennent pas lieu.
Quand vous dites déclaration, quelle est la différence entre ces deux organisations?
C'est-à-dire qu'en réalité, le 18 juin 2013, il y a eu un accord qui a été signé à Ouaga, où il y a eu 2 signataires et 2 adhérents. De toute façon, c'est même là, une fois que les négociations ont été transportées à Alger, les Algériens ont fait 2 groupes, ce qu'on appelle la coordination de la déclaration, qui regroupe les 2 signataires qui étaient MNLA ACIA, élargi à la dissidence des MAA qui est adhérent, avec les CFR2. La plateforme maintenant regroupe les 2 adhérents MAA et CFR, élargi au GATIA, au CPA et au CTMS.
Est-ce qu'on peut dire que c'est toujours des combats qui opposent des Touaregs aux Arabes maliens?
Non, aujourd'hui, ce combat oppose les gens qui sont pour que la souffrance de population soit diminuée et c'est là qu'ils continuent à appuyer les populations et ne pas vouloir aller à un accord.
Et les combats durent depuis combien de temps?
Les combats sont en train de durer il y a 3 jours, mais aujourd'hui, la coordination est en déroute et elle fait crier par-ci par-là qu'elle a été attaquée par la MINUSMA, ce qui est archi faux. Au contraire, c'est un obus de l'air mortier qui est tombé sur la MINUSMA à Tabankor.
Est-ce qu'on a une idée de bilan, le nombre de morts?
Les bilans, ils ont laissé 26 corps sur leurs traces et 7 ils sont en train de les enterrer tout de suite à Kidal. Plus beaucoup de véhicules calcinés et jusqu'à présent, ils sont en déroute.
Mohamed Ould Matali, membre de la plateforme à Bamako.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24,
à Bamako sur 102 FM.
Au Niger, une réunion sur la lutte contre Boko Haram s'est ouverte hier. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de 6 pays africains se sont réunis pour mieux unir leurs forces contre l'organisation terroriste nigériane. Claire Morin-Gibourg a joint Idi Angomar, ancien ministre de l'Intérieur nigérien.
Ce sont des phénomènes qui nous ont échappé, qui avaient été perçus par certains services de renseignement, par certains services de police de nos États. Même le Nigeria avait sous-estimé l'éventualité de la progression de ce phénomène. Ils les ont identifiés comme des groupuscules illuminés. Et deuxièmement, la faille, c'est qu'il n'y a pas eu un travail sérieux de recoupement des renseignements des différents États sur le phénomène. Et je pense que c'est ce qui a amené donc ce mouvement à prendre énormément d'ampleur. Tous les États sont obligés, en tout cas au niveau du Sahel, de se pencher sur la question et de voir quelles solutions il faut y trouver.
Le fait que le Nigeria n'arrive pas à contrer Boko Haram, l'enlisement de cette situation, vous étonne-t-il ?
Il y a quand même un paradoxe. Au Nigeria, depuis un certain nombre d'années, le gouvernement fédéral a permis à certains États d'appliquer la charia. Vous voyez un peu la dynamique conflictuelle et interne. Je pense que le Nigeria doit beaucoup plus se pencher pour savoir est-ce qu'il faut retirer cette autorisation, est-ce qu'il faut le permettre. Il y a beaucoup d'interrogations.
Pour vous, le Nigeria ne s'est donc pas suffisamment investi dans la lutte contre Boko Haram.
En 2012, il y a eu une réunion des ACP au Danemark. À cette occasion, l'Union européenne avait proposé de porter Boko Haram sur la liste des organisations terroristes. Curieusement, c'est la délégation nigériane qui s'y était opposée, qui a réuni toutes les délégations ouest-africaines pour les convaincre de ne pas accepter cette résolution. Il y a quand même des questions qui méritent de réponse.
Idi Angomar, ancien ministre de l'Intérieur nigérien. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Morgane.
Forum économique maroco-ivoirien, aujourd'hui à Marrakech.
Oui, ce forum fait suite à celui tenu en février 2013 à Abidjan. Une délégation de 150 entreprises ivoiriennes ont effectué cette fois-ci le déplacement marocain. Le thème de ce forum est Maroc-Côte d'Ivoire, une dynamique de co-émergence en marche. Les relations économiques entre les deux pays se sont resserrées ces dernières années. D'ailleurs, le président ivoirien Alassane Ouattara séjourne dans le royaume chérifien depuis dans le cadre d'une visite d'État.
Les effets d'Ebola sont énormes pour les trois pays les plus touchés.
Oui, parlant des effets de l'épidémie sur la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, la Banque mondiale estime que ces pays vont perdre 1,5 milliard de dollars dans leur croissance économique cette année. Cependant, ces effets sont beaucoup moins importants que ce qui avait été prédit. Dave Evans est économiste à la Banque mondiale et co-auteur du rapport sur les effets économiques de l'épidémie.
Ce que nous observons, c'est que l'impact réel que nous voyons pour l'ensemble de l'Afrique, et pas seulement l'Afrique de l'Ouest, est beaucoup plus de l'ordre de 500 millions de dollars. C'est très, très minime, même si nous prenons un mauvais scénario.
La Chine a consolidé en 2014 sa position de premier fournisseur de l'Algérie.
Depuis 2013, la Chine devance la France qui avait gardé ce rang pendant un demi-siècle selon les chiffres officiels publiés ce mardi. Sur 55,8 milliards de dollars d'importation, la Chine a fourni pour 8,2 milliards de dollars, suivi de la France pour 6,4 milliards de dollars.
C'était la Minute Éco. Merci Bagassi Koura.
Chers auditeurs de VOA Afrique, restez branchés entre 20h et 21h, temps universel, pour écouter de la bonne musique country avec différents artistes. Notre sujet aussi pour cette semaine, les métiers les plus dangereux. D'après vous, quels sont les métiers les plus dangereux du monde? Et pourquoi? Certaines professions comportent des grands risques, n'est-ce pas? Mais on en parlera ce soir dans RM Show. Nous lirons aussi vos mails et vos commentaires postés sur notre groupe Facebook Roger Muntou, La Voix de l'Amérique. Appelez-nous au 001-202-619-3140. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Anne Albertson à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriac au micro et je vous souhaite une excellente journée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.